RCF.
Bonjour à tous, au micro Frédéric Mounier, bienvenue dans le studio de RCF pour cette nouvelle édition des Racines du Présent, toujours en partenariat comme chaque semaine avec le quotidien La Croix. Aujourd'hui, nous allons tenter de faire vivre, de faire revivre deux hommes d'État méconnus et séparés par un siècle, Alphonse de Lamartine et Pierre Mendès-France. Pour quelles raisons allons-nous les évoquer de concert? Eh bien d'abord parce qu'ils sont célébrés en ce moment à travers deux livres dont les auteurs sont à notre micro. D'une part, Sylvie Hiver, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous avez été chargée de mission au Quai d'Orsay, puis au ministère de l'Intérieur. Nous vous avions reçu il y a quelque temps à ce micro pour votre livre « Mousseline la sérieuse ». Il s'agit de l'aîné des enfants de Louis XVI et Marie-Antoinette. C'était publié chez Héloïse d'Ormesson. Et aujourd'hui, vous vous êtes littéralement glissé dans le personnage de Marianne de Lamartine, la très discrète épouse du poète. Vous publiez donc « Au moins le souvenir, il était une fois Lamartine », c'est toujours aux éditions Héloïse d'Ormesson. Je précise que ce livre a été sélectionné pour le Grand Prix du roman de l'Académie française. Avec nous également Frédéric Potier, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes vous aussi haut fonctionnaire, énarque, vous avez été le plus jeune préfet de France. Vous êtes aujourd'hui délégué général à l'éthique et à la conformité de la RATP. Auparavant, vous avez été membre du cabinet de Claude Bartolone, président de l'Assemblée nationale, puis du cabinet de Manuel Valls à Matignon, en tant que conseiller outre-mer. Et vous publiez aujourd'hui Pierre Mendès-France, La foi démocratique. C'était aux éditions Bouquins dans la collection Essais. Alors voilà, ce prétexte de l'actualité éditoriale nous permet plus profondément de mettre en évidence ces deux destins politiques qui ont en fait beaucoup en commun. Lamartine et Mendès-France ne sont restés au pouvoir que très peu de temps. L'un et l'autre ont dû vigoureusement défendre leurs convictions républicaines, leur foi dans la démocratie, face à des adversaires qui les ont parfois haïs. Tous deux, Lamartine et Mendès-France, ont commis des erreurs, connu des échecs. Ils les ont reconnus, ils en sont restés marqués. Et enfin, l'un et l'autre ont été au pouvoir lors de moments charnières de notre histoire. Voilà pourquoi, en compagnie de nos deux invités, nous allons tenter de retracer ces deux destins républicains, aussi brefs qu'exemplaires.
Les Racines du Présent. Frédéric Mounier.
Les Racines du Présent autour de deux personnages républicains, de destins républicains. D'une part, Lamartine mis en scène par Sylvie Hiver à travers son livre « Au moins le souvenir, il était une fois Lamartine » aux éditions Héloïse d'Ormesson. Et puis Frédéric Potier qui, dans quelques instants, nous parlera de Pierre Mendès-France. Le titre de son livre « Pierre Mendès-France, la foi démocratique », c'est dans la collection Bouquins Essais. Alors Sylvie Hiver, vous êtes donc devenue au fil des 370 pages de votre livre l'épouse d'Alphonse de Lamartine, l'épouse d'origine britannique, elle-même peintre et sculptrice. Et nous allons retracer avec vous ces 100 jours entre février et juin 1848, 100 jours à la fois tragiques et pleins d'espoir, 100 jours qui jalonnent la fameuse révolution de 1848, ou plutôt les deux révolutions, l'avènement de la Deuxième République, puis sa chute. Et vous nous faites revivre dans votre livre avec délicatesse, érudition, le destin politique de Lamartine. Vous vous décrivez comme une humble vestale de son feu sacré. On sent bien que vous êtes prise de passion pour cet homme. Vous nous rappelez que nous lui devons le suffrage universel, l'abolition de la peine de mort en politique, l'abolition de l'esclavage, la conservation du drapeau tricolore. Vous dites que Lamartine était l'ange de la République. On a le sentiment en vous lisant que c'était avant tout un grand dépressif. Est-ce que je me trompe, Sylvie Hiver ?
Oui, parce que je pense que quand on est un grand dépressif, on ne peut pas agir.
Oui.
Or, il a agi et avec quelle énergie ?
D'accord.
À plein de moments. Donc, non, dépressif, non.
Dépressif,
non. Moi, je ne dirais pas ça. Peut-être à la fin de sa vie.
Il a dû lutter contre des nuages intérieurs, peut-être, non ?
Oui, il y avait une mélancolie au sens du 19e, pas au sens psychiatrique du terme qui est assez grave. Une petite mélancolie, une petite nostalgie qui était en lui. D'ailleurs, je n'ai pas réussi à comprendre pourquoi, puisqu'il avait une mère qu'il a tellement aimé, tellement admiré, qui a tellement cru en lui. Et c'est tellement important pour un homme d'avoir une mère comme ça, puis une femme.
Mais peut-être trop, justement. Enfin, nous verrons. Alors, nous allons nous attacher avant tout au destin politique de Alphonse de Lamartine. Peut-être d'abord, Sylvie Hivert, un rappel des faits. Nous sommes au début de 1848. Le pays dansait sur un volcan. Pour quelle raison ?
Parce que le régime de Louis-Philippe, depuis 18 ans, selon Lamartine, était dans un immobilisme absolu. Il ne voulait rien changer, pas le moindre petit, pas la moindre petite réforme en faveur des gens qui souffraient. Et ça, Lamartine, année après année, après avoir été pas vraiment dans l'opposition, mais pas non plus avec le gouvernement.
Il y a cet entre-deux.
Au-dessus des partis.
Vous le décrivez comme un modéré écartelé entre la gauche dynastique, prétendant seulement éclairer la monarchie, et ceux qui voulaient tenter le pari démocratique.
Il était
sur une ligne de crête. Voilà.
Et il se disait au plafond. Vraiment au plafond physiquement à l'Assemblée, mais aussi réellement au-dessus des partis. Il voulait prendre ce qu'il y avait de meilleur et non pas, comme certains, être ni de droite ni de gauche. Au contraire, lui, il voulait être
c'est pas la même chose.
De droite et de gauche. Vous voyez la nuance ?
Expliquez-nous.
Moi, je trouve que c'est très différent.
Oui.
Ben, ni Lamartine droite, ni gauche,
n'était pas macronien.
On n'est rien, alors.
Oui.
Alors que, et de droite et de gauche, c'est prendre ce qu'il y a de mieux des deux côtés.
D'accord. Ben,
c'est ce qu'a essayé de faire Lamartine en donnant la main aux deux. Et c'est vrai que c'est ça qui lui a coûté cher.
Alors, c'est ça que
en
nous
France,
allons...
visiblement, on n'aime pas beaucoup ça.
Voilà, on va revenir là-dessus. Et donc, il faut rappeler qu'en ce début 48, le suffrage est censitaire. Il y a combien d'électeurs ?
Oh là, il y en a très peu, mais grâce à lui, on est passé des millions, de 9 millions, je crois.
Si je ne me trompe pas, il y avait 200 ou 300 000 électeurs. Le suffrage était censitaire selon l'impôt qu'on payait.
Exactement.
Et Louis-Philippe était absolument, refusait absolument de modifier, alors qu'il y avait une classe bourgeoise, une classe montante, une classe moyenne qui voulait prendre part à la décision politique.
Qui ne voyait pas pourquoi les instituteurs, par exemple, ne pourraient pas voter.
D'accord.
Ils ne comprenaient pas ça.
Alors, quelle a été l'étincelle qui a mis le feu aux poudres en février 48, Sylvie Hivert ?
Oh, un banal incident qui reste un tout petit peu mystérieux, d'ailleurs. Il y a une manifestation, il y a des tirs, on ne sait pas très bien d'où ça sort, d'où ça part. Et effectivement, ça met le feu aux poudres. En très peu d'heures, le roi quitte Paris.
C'est-à-dire que Paris se couvre de barricades ?
Oui, ça y est, c'est une espèce de révolution tout à fait spontanée.
Les gilets jaunes de l'époque, on peut dire ça ? Allez.
C'est toujours très difficile.
C'est toujours très difficile de comparer,
mais est-ce que ce serait comparable ? Bon, mettons.
D'accord.
Effectivement, il y a une insatisfaction, un sentiment d'incompréhension de la part du pouvoir. Ça, c'est effectivement, c'est la même chose.
Donc,
et d'ailleurs, ces gens, il faut le préciser, parce que je pense que ce n'est pas assez connu, ces gens ne cherchaient absolument pas à renverser le régime. Ce jour-là.
Le régime est tombé tout seul ?
Et encore moins passé à la République. Il faut bien savoir qu'en 1848, il y avait très peu de républicains. Même Lamartine ne l'était pas encore.
Voilà.
Il est devenu en quelques minutes.
Et alors, en quelques minutes...
C'est ça qui est fascinant, et je commence le livre avec ça.
Voilà, on va justement écouter ces minutes-là, si vous voulez bien. Nous sommes donc le 24 février 1848. Je vais vous faire écouter un extrait de la série Victor Hugo, Ennemi d'État, qui a été réalisée par Jean-Marc Moutou, qui a été diffusée sur France Télévisions à plusieurs reprises en 2018. Et nous allons écouter le comédien Steve Drizen, qui joue votre héros, Alphonse de Lamartine, et qui échange... avec le peuple.
Le peuple ne veut pas de la régence, il veut la République. La République, tout de suite, sans attendre.
Citoyens, citoyennes, je suis le député Alphonse de Lamartine. Moi aussi, je suis pour la République. Mais on ne change pas de régime par la force, sous peine de faire sombrer le pays entier dans la guerre civile. Citoyens, il faut étancher le sang qui coule. Il faut suspendre ce malentendu terrible qui existe entre les différentes classes de citoyens et qui nous empêche de nous reconnaître comme un seul peuple.
Si vous voulez la paix, il faut commencer par reconnaître la victoire du peuple. Citoyens, nous sommes en train de constituer un gouvernement provisoire à l'hôtel de ville et nous allons proclamer la République.
Vous ne proclamerez rien du tout sans nous. Mais l'ensemble des députés est prêt à négocier avec toute la nation. Non, c'est ensemble. C'est ensemble que nous devons décider du gouvernement. Alors oui, tous à l'hôtel de ville.
Allez à l'hôtel de ville.
Voilà, et à l'hôtel de ville, la République sera proclamée. On voit bien la tension, Sylvie Hivert, et on la sent aussi en vous lisant.
J'espère bien.
La tension entre une partie du peuple qui veut la démocratie sociale, disons, le pouvoir, qui veut une forme de révolution sociale.
N'oublions pas que ce sont des Parisiens.
Oui, voilà, nous sommes à Paris, nous sommes au cœur de Paris.
Paris, c'est Paris, et c'est pas du tout la France, déjà.
Voilà, et donc, on sent qu'il y a une forme de précaution chez Alphonse de Lamartine qui veut éviter et qui veut conjurer la guerre civile et empêcher les Blanquis, les Raspail, les Barbès peut-être de déshonorer cette Seconde République. Enfin, il y a une tension entre la rue et une forme de légitimité, Sylvie Hivert.
Oui, il n'a jamais rien eu d'un jacobin, ça oui. C'est certain. Mmh. Et non seulement il veut éviter la guerre civile et il y parvient, parce que finalement, il y a très peu de morts pour cette révolution-là. C'est merveilleux. Oui. Il veut surtout éviter le retour de l'échafaud, tout ce qui fait peur à toute la France.
Voilà, parce que 93, c'était hier pour cette génération-là.
Hier pour cette génération, c'est un traumatisme total.
Voilà, nous sommes en 48, c'était 50 ans, c'est deux petites générations. Oui. Donc tout le monde a connu.
Mais deuxièmement, ce que je trouve aussi intéressant, ce que j'ai découvert moi-même en écrivant ce livre, parce que j'avais un petit peu oublié les détails, c'est qu'il commence par se prononcer pour un gouvernement provisoire et pas pour la République. Il dit que c'est le gouvernement provisoire et les Français qui doivent décider quelle forme de régime on va adopter.
Donc il y a une forme de
mais
prudence.
Mais il a compris déjà que c'est la République qui... Il pense que la France est mûre pour la République, ce en quoi, entre nous, il s'est peut-être un petit peu trompé.
C'est-à-dire
ben, vous voyez bien la fin de l'histoire.
Alors, la fin de l'histoire, racontez-nous. Donc, il se passe 100
jours.
Vous voulez
qu'on aille tout de suite.
Écoutez, allons-y, parce qu'il faut remettre en tête de nos auditeurs ce qui s'est passé. Donc,
pendant 3 mois, il fait ce qu'il peut. Oui. Il y a des manifestations. Pourtant, on crée les ateliers nationaux parce que tous les problèmes d'hier sont ceux d'aujourd'hui.
La question de l'emploi.
Le chômage. Voilà. Le chômage de masse. Mmh. Et donc, le gouvernement décide de créer les ateliers nationaux, qui est une forme d'assurance chômage. Enfin, on donne un peu d'argent chaque mois aux gens. Mais alors, le problème, c'est que toute la France afflue.
Mais oui.
Évidemment, les finances ne peuvent pas suivre. Enfin, c'est effrayant. Résultat, au bout d'un moment, on décide qu'il faut arrêter. Mais Lamartine supplie, il dit qu'il faut trouver une autre solution. On ne peut pas laisser les gens comme ça. Effectivement, ça ne manque pas. Ils redescendent dans la rue pour la énième fois, pour des tas de prétextes et de raisons. Les manifestations se succèdent sans cesse. Et malheureusement, Cavaignac, qui à ce moment-là, on confie à Cavaignac les pleins pouvoirs et il fait tirer sur la foule.
Et il y a eu plusieurs milliers de morts.
Oui.
Nous sommes donc là en juin 1848. Donc ce que vous nous expliquez, Sylvie Hivert, c'est qu'en une centaine de jours, Lamartine est passé des cris de triomphe aux
une
menaces
idole.
De mort.
On n'imagine pas
c'était une idole.
L'idole voilà. que c'était. Ouais. Y compris... du point de vue littéraire.
Oui.
Il y avait des gens qui se retrouvaient à côté de lui et qui s'évanouissaient. Mmh. Vous voyez, c'est à ce
c'était une star, comme on dirait aujourd'hui.
Une star incroyable. Même ses avaloirs, par exemple, comme auteur, on n'avait jamais atteint des sommets.
Et ça tombait bien parce qu'il était criblé de dettes, si je vous ai bien lu.
Oui, il était criblé de dettes uniquement parce... Enfin, uniquement, peut-être pas uniquement, mais comme il était le seul garçon de la famille... toutes les tantes, les oncles, toute la famille, tous ceux qui n'avaient pas d'enfants ou quand ils mouraient, là, hop, c'est lui qui héritait des châteaux. Et le résultat, c'est que comme il voulait dédommager ses sœurs et qu'il en avait 5, en tout cas à cette époque-là, il en avait 5.
Donc il était trop bon.
Il était trop bon, très généreux, il était capable de donner centaines de francs à quelqu'un qui lui demandait. Bon, voilà, il était comme ça. C'était un de ses rares défauts.
Alors, revenons, si vous le voulez bien, Sylvie Hivert, à ce que Lamartine a pu faire pendant ces 100 jours. En gros, vous nous expliquez qu'il a créé une sorte d'État providentiel, mais surtout, il a réformé le suffrage. On est passé du suffrage censitaire au suffrage universel.
Ça, c'était la première fois. Mmh. C'est la première fois que les Français vont élire, en tout cas, un président.
Les Français et pas les Françaises, il faut le rappeler.
Les Français, bien sûr.
Suffrage masculin,
bien
à l'époque,
sûr.
C'était une
masculin,
évidence.
Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça a fait quand même un peu grincer des dents.
Oui.
Par exemple, Tocqueville n'admettait pas qu'on puisse faire voter n'importe qui. Alors, il trouvait ça inouï, aberrant.
Donc on est passé de quelques centaines de milliers d'électeurs à 8 millions. Et avec un grand succès, le taux d'abstention a été très très faible à ce moment-là, au moment de cette élection.
Mais oui, je crois qu'il y avait 80% des gens qui sont allés voter, et vraiment religieusement. C'est aussi une chose amusante, la Deuxième République, pour ça, c'est que la religion est de retour, alors qu'elle avait totalement disparu, enfin, en tout cas sur le papier, après 92-13, par là. Et là, au contraire, elle est de retour. On a des « aimez-vous les uns les autres ».
Ah oui, affichés.
Oui, oui, il y a une espèce d'esprit de 48 que Baudelaire a magnifiquement, d'ailleurs, évoqué. Et ça, c'est une énorme différence aussi avec la Troisième République. Et donc, je me demande s'il n'y a pas un lien entre le fait qu'on ait tellement oublié Lamartine. Est-ce que ce n'est pas un peu parce que c'est peut-être un peu gênant que ce soit un homme qui vient plutôt de la droite, s'il faut parler comme aujourd'hui, et qui finalement mène une politique qu'aujourd'hui on appellerait de gauche, mais enfin ça se discute vraiment beaucoup.
Toujours cette ligne de crête.
Lui a toujours refusé les deux,
Alors, outre le suffrage universel, l'abolition de la peine de mort en matière politique.
Très important, et ça, ça faisait longtemps que Hugo et lui militaient pour ça.
Ils étaient très proches l'un l'autre.
Ils étaient très proches, mais politiquement, ce qui est amusant aussi, je trouve, et ça, j'essaye de bien rendre grâce à Lamartine là-dessus, c'est qu'on a beaucoup retenu justement le Hugo politique, et beaucoup moins Lamartine. C'est injuste, parce que c'est Lamartine qui est venu à la République bien avant notre ami Hugo, que j'adore par ailleurs. Mais il n'empêche que quand Hugo s'est enfin décidé à rallier la République, il l'a doublé par la gauche et il est devenu, on peut dire, aujourd'hui on pourrait dire d'extrême gauche.
Ça arrive, ça arrive. Alors, outre donc le suffrage universel, l'abolition de la peine de mort, l'abolition de l'esclavage, vous évoquez également, Sylvie Hivert, dans votre livre, l'abolition de l'aristocratie héréditaire, ce qui pour un aristocrate n'est quand même pas évident, la liberté de la presse, la gratuité de l'enseignement, la séparation de l'Église et de l'État.
Ah, mais c'est incroyable.
Tous ces thèmes étaient chers à Lamartine.
L'abolition définitive de l'esclavage. Oui, c'est inouï. Mais je trouve que le plus incroyable, c'est quand même ce suffrage universel direct pour élire les représentants, puis surtout le président. Chose qui a fait très peur ensuite au suivant. Votre invité pourra le...
Mais alors justement, votre autre invité pourra Frédéric Potier, comment vous réagissez à ce tableau de chasse, en quelque sorte, à cet état des lieux que nous brosse Sylvie Hivert à propos de l'action politique d'Alphonse de Lamartine ? A-t-il été un précurseur ?
Je crois qu'il a été un précurseur, mais surtout il a été un géant oublié de la vie politique française. Et c'est un peu un point commun qu'on a avec Maurice France. C'est que ces deux personnalités, finalement, assez modérées, mais qui ne seraient pas dans une modération, je dirais, molle. C'est-à-dire que c'était deux personnalités, je pense, qui avaient des fortes convictions politiques et qui les défendaient contre les préjugés, contre les stéréotypes, et qui traçaient leur route, quitte à se faire détester et à rencontrer des oppositions massives.
Oui, des personnalités tout à fait indépendantes et ancrées dans leurs convictions.
Oui, Mendès France, par exemple, même s'il considérait que les partis politiques étaient importants, et lui-même a siégé au sein du Parti radical socialiste, considérait que finalement il fallait dépasser tout ça. Et dans son gouvernement de 1954, on trouve des gens du centre-gauche comme François Mitterrand à l'époque, mais aussi des gaullistes sociaux comme Chaban-Delmas.
Voilà. Alors, Sylvie Hivert, il faut quand même dire que ce suffrage universel a mal tourné pour Lamartine.
Hélas. Mais en même
vous
temps, c'était presque écrit. C'était presque écrit. À partir du moment où la République fait tirer sur le peuple, et d'ailleurs ce qui a bien amusé, entre guillemets, Louis-Philippe, qui de son exil a dit, et j'adore cette phrase, la République a bien de la chance, elle peut faire tirer sur le peuple.
Car il est vrai
que Louis XVI n'a jamais fait tirer sur le peuple. J'en profite pour leur dire ici, parce que trop de gens croient que Louis XVI a fait tirer sur le peuple. Jamais. Et c'est sans doute pour ça qu'il est mort. Mais là, bon, la République, elle y va. Donc elle mitraille. Et du coup, lui, il est assimilé, évidemment, à ce gouvernement, enfin, qui n'est plus d'ailleurs un gouvernement tout à fait, qui est un... C'est puisque Cavaignac a pris les pleins pouvoirs, enfin, on lui a donné, il ne les a pas pris. Et ensuite, il n'arrive plus. On lui reproche d'avoir voulu gouverner aussi avec les Le Druy-Rollin, d'avoir parlé avec l'extrême gauche. Mais lui, il pense qu'il faut parler à tout le monde. Et moi, je le défends là-dessus. Et tout à l'heure, vous avez été un peu dur avec lui. Vous avez dit il a fait des erreurs comme Mendès France. Je ne trouve pas qu'il ait fait beaucoup d'erreurs.
Oui. Vous collez à votre sujet.
J'arrive pas. Je vous assure que j'ai essayé d'être hyper objective. Et je pensais lui trouver beaucoup plus de défauts. Par exemple, justement, de l'argent, peut-être un petit côté un peu prétentieux parfois, mais finalement, non. En regardant à la loupe, non.
Alors, rappelez-nous finalement, à qui le suffrage universel a-t-il ouvert les portes du pouvoir ?
Alors, un outsider restait fameux, car il y avait quand même un certain nombre de personnes qui se présentaient. Et le favori, c'était Cavaignac, bizarrement, parce que ça y est, les gens avaient peur de la rue. La France, c'est pas Paris. c'est la France qui a voté contre...
avait peur des rouges et des partageux.
Exactement. Elle avait peur des partageux, elle avait peur du désordre. Voilà. Et ça, franchement, là, rien n'a changé. Mm-hmm. Le désordre, ça fait peur. Du coup, réaction. Et c'est Louis-Napoléon Bonaparte qui a remporté la présidentielle contre toute attente. Et puis alors, avec des scores, je crois que c'est 75%. Et Lamartine a fait 18 000 voix.
Voilà, ce qui est
après
absolument
avoir été élu 3 mois plus tôt dans 10 départements, puisqu'à l'époque, on pouvait se présenter dans plusieurs départements. Donc, c'est vous dire l'ampleur de la chute. Voilà. Là, la roche tarpéienne est vraiment très proche du capital.
C'est un cliché, mais évidemment,
oui, mais là, vraiment, c'est une telle chute.
Alors, quels enseignements peut-on tirer de cet épisode pour aujourd'hui, Sylvie Hivert? Est-ce qu'on peut dire que déjà, la vie politique française oscillait entre la voix des urnes et celle de la rue?
Oui, oui. Oui, parce qu'il y a une immaturité de tout le monde. Il y a une erreur peut-être qu'a faite Lamartine, mais c'est facile à dire après. Mmh. C'est qu'il a pensé qu'une seule... il a milité, lui, pour une seule chambre. Et non pas pour une chambre basse, une chambre haute.
Et un Sénat, oui.
Et bah, visiblement, ça a été peut-être une erreur aussi. Mais bon, à part celle-là, franchement, moi, je trouve qu'il a...
Vous voulez dire la France des notables ne lui a pas pardonné?
Ah, ça, c'est sûr.
Oui.
Ah, ça, c'est sûr. On ne lui a pas pardonné d'insister, par exemple, pour que le Drurolin reste. Vous voyez, des choses comme ça qui les ont... Et puis alors, quand ils ont vu tous ces désordres, quand ils ont vu les manifestations, les demandes folles que demandait parfois la rue, des demandes folles. Ça, je les raconte dans le
milliard,
roman. C'est vraiment très amusant.
Le milliard de Barbès, par exemple, qui demande 1 milliard pour...
Ah oui, non, mais ils demandent tous des choses complètement délirantes. Des choses parfois qui ne vont pas ensemble.
Oui.
L'argent ne compte pas. Hein. Ça, l'argent, on ne sait pas. Ça tombe du ciel.
Surtout que les caisses étaient vides à l'époque.
Ben, bien sûr, complètement vides. La faillite était vraiment toute proche.
Une dernière question, Sylvie Hivert, et puis ensuite on va aborder l'autre itinéraire, et puis on va croiser les deux itinéraires. De votre point de vue, un réformateur peut-il gouverner longtemps en France? Est-ce qu'un réformateur n'est pas condamné, un vrai réformateur n'est pas condamné à la brièveté, Sylvie Hivert? Je vous sens pensive.
Question difficile. Très difficile. Aujourd'hui, en tout cas, c'est très difficile.
Oui.
Moi, depuis que j'ai l'âge de voter, j'entends ça, que c'est même pas possible. Il faut juste dire à chacun, ce qu'a fait d'ailleurs Louis-Napoléon, dire à chacun ce qu'il a envie d'entendre. Donc, aux militaires, on dit ce qu'ils ont envie d'entendre. Aux commerçants, on dit ce qu'ils ont envie d'entendre. Aux entrepreneurs, on dit ça. Aux agriculteurs, on fait des bisous, etc.
Ce n'est pas ce qu'a fait
l'enseignement.
Pierre Mendès France, dont nous allons parler dans un instant.
Les racines du présent, RCF.
Au micro, Frédéric Mounier, avec nos deux invités, Sylvie Hivert pour son livre « Au moins le souvenir, il était une fois Lamartine » aux éditions Héloïse d'Ormesson, et puis Frédéric Potier pour son livre « Pierre Mendès France, la foi démocratique » aux éditions Bouquin Essai. Nous retraçons et peut-être nous faisons se croiser les destins républicains brefs et exemplaires de Lamartine et de Mendès France. Alors justement, de Lamartine à Mendès France, Frédéric Potier, il n'y a peut-être qu'un pas que nous allons tenter de franchir en votre compagnie. La similitude entre les deux parcours politiques réside, on vient de le voir, peut-être dans la brièveté. Vous le rappelez dans votre livre, Frédéric Potier, les états de service de Pierre Mendès France sont brefs. Il a participé au pouvoir un mois en 1938 dans le deuxième gouvernement de Léon Blum. Il a passé un peu plus d'un an et demi dans le sillage du général de Gaulle entre novembre 43 à Alger et avril 45 à Paris. Et puis il a été président du Conseil pendant 7 mois et 17 jours en 1954-1955. Et enfin, il a été ministre d'État sans portefeuille 4 mois en 1956. Alors, vous le constatez, Frédéric Potier, dans votre livre, la trace de Pierre Mendès France dans l'histoire de France n'est pourtant pas proportionnelle au temps qu'il passa au pouvoir.
Et c'est un point commun avec Alphonse de Lamartine, à l'évidence. C'est vrai que Pierre Mendès France a exercé finalement peu de temps de fonctions ministérielles ou des fonctions de chef de gouvernement. Et pourtant, c'est resté une référence majeure de la gauche française, mais pas seulement de la gauche d'ailleurs, de l'histoire politique française, avec ce paradoxe qui est qu'il est plutôt connu pour... des qualités morales, plutôt connues pour une exigence républicaine, une forme d'éthique.
C'est ça, on parle de la conscience de la République. Lorsqu'il est mort, on a parlé du dernier des justes. Voilà.
Et c'est peut-être le deuxième point commun d'ailleurs avec Lamartine, c'est que moi j'ai des souvenirs comme ancien étudiant du poète, du républicain, mais pas tellement de ses thèses, de ses idées politiques et de ses accomplissements. Et ça, c'est un autre point commun avec Mendès France, où moi, quand j'ai lu il y a quelques années... les grandes biographies de Jean Lacouture ou d'Éric Roussel, voilà, ou Michel Houellebecq, on est écrasé en fait par cette personnalité, par cette exigence. Et on oublie vraiment ce qu'a pensé, ce qu'a écrit Mendès France pendant presque 50 ans.
Mmh. Et c'est ça que vous voulez réhabiliter.
Et c'est ça que j'ai essayé de réhabiliter, reprendre, oui, les écrits, non pas interroger les témoins, mais reprendre les textes. Il écrit sa thèse de droit sur les finances publiques en 1929 et il s'écroule sur sa table de travail en 82 en écrivant une note sur la planification démocratique. Mmh. Et entre-temps, on a des milliers de pages, alors non pas de poésie, non pas des discours ou des odes à la République, ça on en trouve, oui, mais des ouvrages sur la science économique, des discours sur la politique étrangère, des interventions sur la décolonisation. Donc un homme complètement pris dans les problématiques de
c'est
son temps.
Et un gros travail sur le fond.
Et un gros travail sur le fond, avec peut-être une spécificité de Pierre Mendès France, qui est que, je dirais que c'est un homme politique technicien. Et c'est peut-être un des premiers de cette génération-là à être un homme de dossier. C'est quelqu'un qui demande des chiffres, c'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour que la comptabilité nationale, l'INSEE, soit créée. Lui-même a été ministre du Trésor, puis de l'économie nationale, puis son portefeuille. Mais c'est un homme qui cherche à régler des problèmes. C'est quelqu'un qui constate des difficultés, qui n'a pas une vision messianique de l'histoire ou qui devrait suivre.
Oui, c'est pas un De Gaulle. Ouais.
C'est pas un De Gaulle, puis c'est pas un idéologue, c'est pas, voilà, quelqu'un qui se reconnaîtrait par exemple dans le marxisme.
C'est un homme de gauche.
C'est un homme de gauche,
mais
très,
non marxiste,
très attaché aux idéaux de la Révolution française, à l'esprit des Lumières, à Jules Ferry, et puis aux grands socialistes français que sont Jaurès et Blum. Mais ce n'est pas quelqu'un qui voit l'histoire comme un chemin se dressant tout seul, en fait. C'est voilà, quelqu'un qui essaye de trouver à chaque fois des solutions très pragmatiques.
Pour construire. Alors, il faut le rappeler, et vous le racontez très bien dans votre livre, Frédéric Potier, Pierre Mendès France a été haï par la droite colonialiste. On va voir dans quelques instants comment il s'est comporté face à la question coloniale. Il a été combattu sans relâche par le Parti communiste français. Il a été tenu à l'écart par une partie des socialistes. Il a été renié par les radicaux, incompris des centristes, marginalisé par les gaullistes. Il n'y a pas grand monde qui l'aimait.
Oui, c'est vrai que quand on fait la liste, ça donne l'impression d'un paria en politique. Et il était un petit peu tout ça. Et en même temps, il était craint et respecté par tous ces camps-là. C'est-à-dire que même s'il était rejeté par les communistes, par exemple, il n'était pas lui-même dans une forme de maccartisme. Il n'était pas dans une chasse aux sorcières. C'est simplement, il constatait
des
désaccords de fond,
oui, c'est ça,
qu'il fallait assumer. C'est pareil avec les gaullistes. Hein. Pierre Mendès France a rejoint De Gaulle à Londres et a combattu dans une escadrille en tant que navigateur, hein, dans un avion. Mais néanmoins, il a combattu De Gaulle postérieurement comme opposant politique et il le faisait sans concession.
Il était contre la Ve République.
Il était très contre les institutions de la Ve République. Il trouvait que le régime était présidentialiste, dangereux,
quasi monarchique,
et insuffisamment respectueux des contre-pouvoirs.
Mais il n'a pas vu la capacité de durabilité.
Et c'est sa principale erreur politique, c'est-à-dire qu'il ne voit pas le rôle moteur de l'élection présidentielle, il ne voit pas la stabilité que va apporter cette Ve République, et puis la bipolarisation. Lui-même se trouve un peu écartelé, ainsi que ses amis, entre une gauche qui essaye de s'unir, et puis une droite qui s'unit avec le centre. Lui-même ne fait pas le pari de François Mitterrand, qui va être le moteur de ce rassemblement de la gauche.
Va s'accommoder de la Ve République.
Absolument, au prix de quelques subtilités tactiques et de comportements florentins. Mais Mendès France refuse ça, et il ne se reconnaît pas non plus dans ce qu'est une politique de droite classique. Et donc il est finalement la mauvaise conscience de François Mitterrand, qu'il soutient malgré tout, mais il est à part. Et c'est aussi ce qui fait, je crois, son charme. Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant de regarder ses écrits, parce qu'il écrit de manière complètement libre et désintéressée.
Et on se souvient que le jour de l'investiture de François Mitterrand à l'Élysée, Pierre Mendès France était là, il était en larmes, et François Mitterrand lui a dit...
Sans vous, rien n'aurait été possible.
Voilà, donc il y a quand même quelque chose de l'histoire qui se renoue. Alors, on va revoir un certain nombre de points importants de l'histoire de Pierre Mendès France. On va écouter sa voix, mais je voudrais d'abord demander à Sylvie Hivert comment vous réagissez à ce portrait, vous qui êtes fan, on l'a compris, d'Alphonse de Lamartine, aussi de l'homme politique, pas uniquement du poète. Comment vous réagissez à ce portrait que Frédéric Potier vient de nous brosser de Pierre Mendès France?
Évidemment, des milliards de points communs m'éclatent à la figure, littéralement.
Carrément.
Mais oui, j'ai pris plein de notes, là. Vous avez vu mon petit papier. C'est toute une
liste. On est à la radio, je vous rappelle, malheureusement.
Non, mais c'est pour ça. Non, mais alors, par exemple, dans ce que vous avez dit, il y a quelque chose qui m'a tout de suite fait penser à Lamartine, c'est que lui aussi, alors aussi incroyable que ça puisse paraître, lui aussi s'est saisi des dossiers. Et lui aussi était un homme de dossiers. en particulier quand il était député, représentant, on disait à l'époque.
Il a été député pendant longtemps, il faut le rappeler.
Pendant très longtemps.
Comme Pierre Merlès-France.
Dès qu'il a eu l'âge d'être député, il a été député. Oui. Bon, il se trouve que c'était 40 ans à l'époque, mais c'est ce qui explique aussi qu'il arrive assez tard en politique. Mais il le dit d'ailleurs, peu de temps avant, il dit à sa femme, j'ai plus de politique que de poésie dans la tête. Et ça, c'est une chose qu'il faut bien faire entrer dans la tête aussi de tout le monde. C'est que Lamartine ne se voyait pas, se voyait autant comme un poète que comme un missionnaire, littéralement, et comme un politique. Pour lui, tout ça était très lié, y compris avec la religion, d'ailleurs. Tout ça, c'était un tout, c'est indécoupable, même s'il n'a pas écrit de poème pendant son... Bon. Donc, je disais, un homme de dossier, parce que il s'est intéressé de très près aux théories diverses et variées économiques. Il était très, très près de tous les sujets, comme... les chemins de fer, les enfants trouvés.
Oui, il prenait la nationalisation des chemins de fer.
Oui. Et il a même, c'est même lui qui a demandé le tracé qui va jusqu'à Marseille, par exemple. Qui sait ça aujourd'hui? Personne.
Il faut bien le rappeler.
C'est pour dire qu'il était aussi un homme de dossier,
Ce qui sera fait la libération.
Voilà, exactement. On va voyager dans le temps et on va écouter la voix de Pierre Malès-France. Les plus anciens de nos auditeurs se souviennent que Pierre Malès-France avait l'habitude de s'exprimer à la radio, à la TSF. À l'époque, dans les années 55, il y avait 9 millions de ce qu'on appelait des postes de radio chez les Français. C'était des lieux où la famille se réunissait. Et donc, régulièrement, je crois, sur un rythme hebdomadaire, c'est bien ça, Frédéric Potier, Pierre Malès-France, président du Conseil, s'adressait au peuple et racontait au peuple ce qu'il allait faire, quels étaient ses projets, qu'il allait rencontrer. On va l'écouter le 10 juillet 1954. Ça s'appelait les causeries radiophoniques du samedi. Et Pierre Malès-France se prépare à ouvrir des négociations sur la paix en Indochine.
Dans un instant, je vais quitter mon bureau au Quai d'Orsay pour prendre l'avion qui m'emmènera à Genève. J'y rencontrerai ce soir le ministre des Affaires étrangères de l'Union soviétique, M. Molotov. J'ai vu déjà, comme vous le savez, et dès les premiers jours, messieurs Eden, Bedell-Smith et Chou En Lai. Il me reste encore à m'entretenir avec M. Molotov et à l'éclairer sur la position de la France. J'ajoute, pour terminer de vous mettre au courant de mon programme immédiat, que je vais travailler demain avec les membres de notre délégation et celle des États associés, qui sont maintenant sur le chantier depuis plus de 2 mois. Je rencontrerai aussi M. Krishna Menon, délégué de l'Inde, et lundi matin, dès son arrivée, je reverrai M. Anthony Eden pour que nous puissions harmoniser notre action à l'un et à l'autre pour la recherche de la paix. Ainsi sera terminée la phase préparatoire et nous serons lundi après-midi à pied d'œuvre. Après de longs efforts et des préparatifs minutieux, nous nous trouverons au début de la dernière et de la plus difficile étape. C'est à ce moment qu'il faut être certain d'avoir bien tout prévu, de n'avoir négligé aucun des éléments qui peuvent être nécessaires pour arriver jusqu'au but. Cette conviction, ce soir, c'est la mienne. Et voici sur quoi est fondé mon espoir. Il y a d'abord la volonté de paix de la France, volonté indiscutable, parce qu'elle a été clairement et solennellement affirmée par l'Assemblée nationale à l'occasion du dernier vote d'investiture. Il y a en second lieu l'appui que nos amis et nos alliés nous apportent et qui a été confirmé dans le communiqué signé à Washington par les présidents Eisenhower et Churchill lorsqu'ils nous ont manifesté une confiance et donné un soutien dont je les ai remerciés. Il y a aussi la solidité de nos positions militaires au Vietnam, solidité accrue grâce à la réussite des opérations de concentration que le général Ely avait prévues depuis 2 mois et qui viennent d'être exécutées, grâce aux envois de renforts, grâce aussi à l'annonce faite à la tribune de l'Assemblée nationale des mesures que le gouvernement français recommanderait en cas d'échec des négociations.
Voilà, nous étions le 10 juillet 1954 et Pierre Mendès-France s'adressait directement aux Français, vous l'avez entendu, pour expliquer pourquoi et comment il allait arriver à la paix en Indochine. Frédéric Potier, on n'imagine pas ça aujourd'hui.
Alors d'abord, il faut dire que Pierre Mendès-France cumule les fonctions de chef de gouvernement et de ministre des Affaires étrangères précisément.
Comme Lamartine.
Comme Lamartine.
Voilà, Sylvie Vert. Voilà.
Pour aboutir à un accord de paix, ce qui va devenir les accords de Genève sur l'Indochine. Et ce qui est très intéressant, c'est sa méthode. On est vraiment aux antipodes de la politique étrangère façon De Gaulle, avec de grandes déclarations, avec des gestes spectaculaires, avec des grandes envolées lyriques. Il est dans quelque chose de très méthodique, de très précis, et il s'adresse finalement aux Français comme s'il parlait à son directeur de cabinet. C'est-à-dire qu'il fait le pari de l'intelligence.
Ouais, c'est tout à fait.
Et il le fait en grande transparence. On l'a entendu. Il dit, je vais rencontrer le représentant de l'Union soviétique, le représentant indien, le représentant britannique. Et ensemble, nous allons essayer de faire avancer les choses. Et il le fait, c'est la fin de votre extrait, dans le pur respect des instructions, en quelque sorte, qu'il a reçues du Parlement français. Et donc c'est là où moi je dis qu'il y a une vraie politique étrangère démocratique chez Pierre Mendès-France, qu'il y a une finalité qui est
la paix. Il rend compte au peuple.
Et il n'y a pas d'un côté une politique étrangère qui serait secrète dans les antichambres, qui serait la politique étrangère peut-être d'un Talleyrand en fait. Mais on a une politique étrangère qui est complètement conforme à sa conception démocratique qu'il applique par ailleurs en matière d'institutions, en matière d'économie.
Alors, le succès auquel il est arrivé avec l'Indochine, avec le Vietnam, c'est-à-dire la cessation des combats et le retour à la maison des soldats français, ça n'a pas été la même chose en Algérie. Ça a été plus compliqué quand même.
Alors sur l'Algérie, il se trouve complètement pris dans un engrenage qui commence le 1er novembre 1954. Et au fond, il est pris dans cet engrenage alors que lui-même est finalement assez libéral avec à ses côtés François Mitterrand. C'est-à-dire qu'il indique que l'avenir de ce qu'on appelle à l'époque l'Empire français ne passe selon lui que par une démocratisation, que par des avancées sociales, des investissements.
Ce qu'on appelle aujourd'hui l'assimilation en quelque sorte.
Là où en fait ses opposants, le parti colonial, finalement plaident pour une politique de répression. Et il n'arrive pas à aller jusqu'au bout de sa démarche, de son envie, et il chute en février 55 parce qu'il lui manque une vingtaine de voix.
Il chute là-dessus.
Et c'est ses amis radicaux, il est trahi par ses amis radicaux, et notamment son ennemi toujours, René Maillère, qui lui est député de Constantine, d'Algérie, et qui est radical comme lui. Alors même qu'il faisait le plein chez les socialistes et chez les centristes. Et donc cet échec de l'Algérie, il est d'autant plus cruel qu'il avait réussi à faire des avancées majeures sur la Tunisie, Tunisie voisine, puisqu'il arrive avec ce discours de Carthage, le fameux discours de Carthage, à octroyer, j'utilise les termes de l'époque, la souveraineté interne, ce qui est en fait une forme de décentralisation, décolonisation, qui ne dit pas complètement son nom, mais qui permet de confier au pouvoir local un certain nombre de prérogatives. Et c'est cette politique-là qu'il aurait voulu appliquer sur l'Algérie, qu'il aurait voulu appliquer au Maroc, et qu'il n'aura pas le temps d'appliquer parce qu'il est censuré, il tombe à l'Assemblée nationale en février 55.
Et il dit, plus tard, il a expliqué que l'Algérie était son grand regret.
Absolument, et c'est peut-être aussi un des hommes politiques qui comprend très tôt, après 55, peut-être dans les années 60, que c'est inéluctable, l'Algérie va devenir indépendante, et que finalement, il faut se hâter d'avoir des discussions productives et constructives. Et donc Mendès-France trouve d'ailleurs que le pouvoir gaulliste traîne un peu trop.
Est-ce qu'il a soutenu De Gaulle au moment où De Gaulle au moment de l'autodétermination en 62?
Il pensait que c'était inéluctable, donc il a probablement voté oui. Simplement, il trouvait qu'on avait beaucoup tardé et que cette décolonisation de l'Algérie était finalement un échec puisqu'elle s'était faite dans le sang.
Dans le sang, absolument, dont on reparle ces jours-ci. Alors, il y a un point sur lequel je voudrais revenir, un point de la personnalité de Pierre Mendès-France, Frédéric Potier, que vous soulignez dans votre livre, dont je rappelle le titre « Pierre Mendès-France, la foi démocratique » aux éditions Bouquin. C'est sa qualité de juif non-croyant confronté à l'antisémitisme. Vous l'inscrivez dans la grande lignée de ce que les historiens ont appelé les juifs d'État, Léon Blum, Jean Zay, Georges Mindel. Expliquez-nous, peut-être rappelez-nous comment ça s'est passé.
Alors Pierre Mendès-France n'était pas croyant, même s'il avait fait sa bar mitzvah et qu'il était originaire de famille évidemment juive. Mais c'était quelqu'un qui avait été en fait élevé par la République, qui était complètement imbibé des valeurs républicaines et de l'esprit de la Révolution française, qui était membre du Parti radical socialiste, franc-maçon, membre du Grand Orient. Et au fond, il a un rapport très distancié avec la religion. Et pour lui, comme beaucoup de Français juifs de cette époque-là, la religion, c'est quelque chose qui doit relever de l'intime, du privé, et pas du tout de la vie publique. Or, Pierre Mendès-France n'a cessé d'être attaqué sur justement l'antisémitisme. Lorsqu'il se présente dans l'Eure, en Normandie, il est tout de suite attaqué. On met sur des tracts le prénom de sa mère, de son grand-père, comme si c'était complètement infamant. Alors même qu'il rappelle que son père, son grand-père, ils se sont tous battus en 70, en 14-18, pendant l'affaire Dreyfus, la famille Mendès-France et Dreyfusarde. Et on ne mesure pas, je pense, ce qu'a été pour cette famille-là et ces gens-là, je pense à Jean Zay aussi, évidemment, et à Mendel, ce qu'a été l'effondrement de 1940. Ce n'est pas simplement une défaite militaire. Mmh. C'est une vraie défaite morale. Et là, on retrouve Marc Bloch. C'est l'étrange défaite, mais c'est l'immense défaite. C'est la défaite de la République et de ses idéaux républicains. Et justement, quand Mendès choisit de se battre à Londres aux côtés du général de Gaulle, il le fait évidemment en tant que patriote pour rétablir la souveraineté française, mais il le fait aussi au nom de valeurs. C'est-à-dire que Mendès-France n'oppose jamais la France et les valeurs républicaines. Et il ne se voit pas, lui, comme juif français, il se voit d'abord comme républicain.
Voilà, et là, ça a été un point extrêmement sensible. Il faut revenir à cet épisode très douloureux. Il a embarqué sur le paquebot Massilia, pensant se rendre à Alger.
Pour combattre.
Pour combattre, avec une délégation très importante de parlementaires. Ensuite, il a été arrêté. Et en fait, vous expliquez dans votre livre qu'il a été arrêté et jugé, qu'il était l'objet d'un procès, également en tant que juif.
Un procès parfaitement inique à Clermont-Ferrand.
Voilà.
Et Mendès-France donc est jugé parce qu'il aurait déserté. Or, il n'a cessé de demander des autorisations pour aller au front, pour se battre. Toutes les pièces du procès l'attestent. Et donc, finalement, il est condamné de manière complètement scandaleuse. Mais il va jusqu'au bout du procès. C'est-à-dire qu'il fait quand même appel. Et ce n'est qu'une fois qu'il a épuiser toutes les voies de droit juridictionnel qui décident de s'échapper.
De s'évader en laissant un message
au maréchal Pétain, et ce qui est vraiment
sur la table de sa cellule.
Passionnant, et ce qui montre son attachement finalement aux institutions, à l'état de droit, c'est que Mendès-France demande la révision de ce procès militaire qu'il n'obtient en 1954 que quelques jours avant de devenir Premier ministre. Là où d'autres comme de Gaulle disent que tout ça c'est nul et non avenu et donc ça n'a aucune force.
Voilà, et pourtant il faut rappeler qu'il a été déchu de son mandat de député et de sa nationalité.
Absolument.
Donc c'est une déchéance citoyenne forte. Il faut rappeler aussi des choses qu'on a peut-être oubliées, c'est qu'en 1936, Pierre Mendès-France a été le seul député à voter contre la participation de la France aux Jeux Olympiques de Berlin.
Ce qui en fait un vrai visionnaire, parce qu'il considérait qu'il y avait le risque, mais c'était attesté, que la France allait se prêter à une mascarade et qu'on assisterait à une propagande hitlérienne disproportionnée. Et donc, il avait assumé complètement ce vote et il était très seul à gauche à l'assumer.
Et en 1934, il s'est prononcé en tant que député de l'Eure, circonscription de Louviers, en faveur du droit de vote pour les femmes.
Absolument. Il avait organisé un système assez original où finalement il y avait des conseillères adjointes, femmes, qui pouvaient siéger au conseil municipal, ce qui était une forme d'arrangement avec la loi, mais que d'autres communes pratiquaient, comme Villeurbanne ou Dax. Mais il était attaché à cette pratique-là, de pouvoir faire participer les citoyennes de sa commune aux activités de sa mairie.
Alors, le fil rouge de votre livre, Frédéric Potier, c'est donc la foi absolue dans la démocratie. Une foi que Pierre Mendès-France a professé tout au long de sa longue vie politique, même si sa vie politique ne l'a mené au pouvoir que très très brièvement. C'est vraiment ça, la foi absolue dans la démocratie.
C'est le fil rouge qu'on retrouve depuis les années 30 jusqu'à la fin de sa vie. C'est cette confiance dans la délibération collective, dans le fait que par le débat, par des institutions politiques, les citoyens peuvent construire des réponses aux difficultés du moment. Je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de vision messianique ou idéologique chez Pierre Mendès-France, mais il y a une méthode, une construction rigoureuse. Il y a des essais qui sont majeurs, on ne les a pas cités encore, mais La République moderne en 1962 est un ouvrage qui est peu connu, mais qui est important, je pense, La vérité guidée leur pas, qui est la réunion de 14 portraits de personnalités majeures avec une introduction qui est d'une parfaite actualité sur qu'est-ce que la démocratie, qu'est-ce que la République, avec des exigences très fortes que sont la vérité, la sincérité, l'éducation, la formation. Et ça en fait une figure républicaine exigeante et un démocrate audacieux. Et ça, je trouve qu'on en a un grand besoin aujourd'hui.
Aujourd'hui, vous voulez dire ?
Je trouve qu'on est dans une vie politique qui se caractérise par une forme de guignolisation avec la politique spectacle qui envahit les plateaux télé et les radios, pas ici bien sûr, qui font que on peut dire n'importe quoi, les chiffres n'ont plus aucune valeur. Et c'est là la grande différence avec Mendès-France qui disait que quand il était ministre de l'économie et des finances, les données financières, les ressources publiques, il faut les allouer à bon escient, il faut être rigoureux dans leur attribution, il faut choisir d'investir, il faut choisir de préparer l'avenir, et donc gouverner, c'est choisir. Et gouverner, ce n'est pas dire à qui le veut ce qu'il a envie d'entendre.
Alors, il y a eu l'épisode de mai 68, on a vu Pierre Mendès France qui était présent à la fin du mois de mai au stade Charletti. Ça reste dans la mémoire comme une drôle de parenthèse, Frédéric Potier.
C'est une zone d'ombre, oui. Puisque Pierre Mendès France se rend à un meeting qui est vraiment le rassemblement de toute l'extrême gauche, hein, avec des maoïstes, le Parti communiste, la CGT, les autogestionnaires. Et Mendès France arrive dans cette enceinte un peu gêné. Il arrive avec Michel Rocard. La veille, ils étaient pourtant convenus avec François Mitterrand de ne pas aller à ce meeting-là. Et finalement, il y va et il abîme beaucoup son image parce qu'on a l'impression qu'il cherche à coller à ce mouvement et il cherche à récupérer ce mouvement, ce qui n'est pas le cas. Lui-même indique à plusieurs reprises qu'il a cherché, par sa présence, à éviter des débordements. Il pensait, et je crois qu'il était sincère, hein, vraiment, que la préfecture de police n'oserait pas ordonner l'évacuation du stade, ce qui aurait été
Il faut rappeler qu'on était dans une période de grande tension dans la
rue. Absolument, avec des barricades, avec des pavés, avec des charges de CRS. Et donc Mendès France a eu, ce courage et peut-être cette inconscience aussi, parce qu'il n'a pas cherché à protéger son image. Et ça, ses opposants, notamment le parti gaulliste, se sont beaucoup livrés à des attaques sur ce plan-là, en disant que Mendès France n'avait pas été à la hauteur ce jour-là de la crise et ce qu'aurait dû être son comportement.
Sylvie Hivert, vous écoutez Frédéric Potier avec beaucoup d'attention. Je voudrais vous faire une citation de Frédéric Potier qui écrit à propos de Pierre Mendès France, à propos du mendécisme, fondé sur une conception non marxiste de la société, forte du constat du développement des classes moyennes et de l'urbanisation, aspirant à davantage de justice sociale et d'efficacité économique, le mendécisme peut inspirer tant à gauche qu'à droite. On dirait du Lamartine, Sylvie Hivert, non ?
Oui, et je vais vous dire le point commun à nouveau que je vois, ce sont deux Girondins.
Alors rappelez-nous, sur la gamme politique Girondins-Jacobins.
Les Girondins, ce sont ceux qui ont voulu, et c'est ce que vous venez de dire exactement, des réformes, mais sans renverser la table. Voilà. Qui ont voulu que les choses changent, mais sans renverser la table.
Lamartine a écrit une histoire des Girondins.
Et justement, j'y venais, qui est probablement... je ne suis pas la seule à le croire, une des raisons de la révolution de 48. Je crois qu'on peut dire que l'histoire des Girondins, qui est sortie en 47, donc un an avant, et qui a été un succès dont on ne peut même pas avoir idée aujourd'hui, quand on publie un livre, c'était formidable. D'ailleurs, il s'est tellement attaché au sujet que, pour un peu, il commençait à dire du bien, même des Jacobins.
Alors, il faut quand même rappeler que l'histoire politique des Girondins s'est très mal terminée, puisque ça s'est terminé sur l'échafaud.
C'est toujours les premiers décapités, ceux qui veulent, c'est toujours comme
ça. Frédéric Potier, reconnaissez-vous Pierre Mendès France comme un Girondin ?
Alors, je pense pas que lui aurait accepté ce qualificatif, parce qu'au Parti radical, ils étaient très attachés à l'idée que les Jacobins étaient aussi ceux qui avaient permis d'émanciper le citoyen d'une forme d'archaïsme et de préjugés et peut-être d'une culture trop religieuse. Mais je pense que Mendès était par contre lui très attaché, effectivement, pour utiliser un vocabulaire un peu plus moderne peut-être, aux pouvoirs locaux et aux contre-pouvoirs. Et dans sa République moderne, il s'inspire notamment de l'Allemagne en disant que comme en Allemagne, il faudrait avoir des régions fortes avec des pouvoirs, des compétences, une forme de possibilité aussi d'expérimenter au niveau local et l'idée que tout ne doit pas être décidé par Paris. Donc en cela, même si lui-même n'utilise pas ce terme-là, en cela, il est effectivement probablement girondin et décentralisateur, même si je ne l'ai pas retrouvé dans ses textes.
Mais on voit quand même que nos deux héros du jour, Alphonse de Lamartine et Pierre Mendès France, sont globalement assez inclassables sur l'échiquier politique où on aime bien situer les gens.
Et pour Mendès France, Mendès refusait le qualificatif de mendésiste. Il considérait qu'on n'avait pas à suivre un homme aveuglément et que c'était à chaque citoyen, chaque homme politique de se définir par rapport à des difficultés très précises. Et donc la figure de Mendès France inspire, et à gauche, je pense à des gens comme Bernard Cazeneuve, que, par exemple, comme à droite avec Édouard Philippe ou même le président de la République qui cite
Mendès France. On peut dire ça.
Il n'y a pas d'héritier direct.
Oui, il n'y a pas d'héritier direct, mais il y a des héritiers à gauche comme à droite, c'est ça?
Il y a une diaspora, il y a des gens qui s'en réclament sur certains sujets, d'autres pas.
Bah, moi, je m'insurge.
Sylvie Hivert, allez-y. Insurgez-vous.
Je trouve que, peut-être Mendès, il y a un petit quelque chose. Mais il y a des points communs, bien sûr. Mm-hmm. Mais ça s'arrête là, parce que Mendès et le suffrage universel, vous voyez, pour élire le président, bon, là, il était contre. Donc là, moi, je trouve ça, c'est une des... Je voulais pas parler
vous
des,
soulignez
des
cette
différences
divergence,
entre
oui.
puisqu'on était là plus tôt.
Oui, oui.
Mais je trouve que celle-là est quand même assez majeure, et pour moi, ça fait toute la différence. Et je pense qu'il n'y a pas de gens comme Lamartine, justement. Il n'y a pas d'héritier, tout simplement, parce que la politique est devenue une profession. La politique est devenue de la communication. Mmh. La campagne électorale, c'est une campagne de pub. Et c'est tout. Moi, en tout cas, j'en suis convaincue.
On a vu arriver au Parlement, et beaucoup l'ont déploré, une génération de députés En Marche qui n'étaient pas des professionnels, justement, qui ont dû apprendre la vie politique.
Vous les avez vus émerger. Beaucoup l'ont déploré. Personne ne sait qui ils sont. Oui. Bon, on ne les connaît pas. Quand ils parlent mal. Très souvent. Non, mais c'est vrai. Bien. Ça m'a frappé. Donc, quand on voit comment parlait Lamartine, comment il écrivait... Ah mon Dieu, il n'y a pas d'héritier, il n'y en a plus. C'est quelqu'un qui est beaucoup trop élégant. Et ça, c'est fini.
Voilà un joli mot. Frédéric Potier, rappelez-nous pour quelles raisons Pierre Mendès France était-il hostile au suffrage universel?
Ah, il n'était pas hostile au suffrage universel, il était hostile à l'élection présidentielle, au suffrage universel
précis. Absolument.
En fait, Pierre Mendès France est un fanat de la démocratie parlementaire à la façon de la Grande-Bretagne ou de l'Allemagne. C'est-à-dire qu'il considère que l'élection des députés, l'organisation de plateformes électorales programmatiques permet d'avoir un débat politique beaucoup plus construit qu'une élection sur un homme où finalement on concentre sur ce candidat beaucoup d'aspirations et on se met à juger son look, ses dents, ses photos, là où lui considère qu'on devrait répondre plutôt à des questions de programme. Et c'est pour ça qu'il a toujours été hostile à cette élection au suffrage universel direct, et je crois que l'actualité, là encore, lui donne quand même un petit peu raison.
Alors, c'est pas complètement faux, parce que même ce pauvre Lamartine qui a voulu faire confiance aux Français et qui pensait que vraiment il pouvait élire un président, mais vous voyez, même lui, et même lui, en
il
disant ça,
du
il s'est dit si jamais le peuple se trompe, entre guillemets, eh bien, et là je le cite, tant pis pour le peuple. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Et ensuite, Louis-Napoléon a fait un coup d'État. Dieu sait que ça, c'est aussi un point commun qu'ils ont. C'est vraiment le Cassandre qui, depuis des années, mettait en garde contre cet homme.
Il voyait venir la tentation populiste et autoritaire.
Il le voyait venir. Oui. Et il n'a pas été écouté. Et à la fin de sa vie, c'est tout juste, il ne prône pas l'abstention.
Et Pierre Mendès France a-t-il vu venir aussi, en quelque sorte, ce coup d'État, entre guillemets, du 13 mai 58, Frédéric Potier?
Alors, coup d'État, il n'utilise pas ce terme-là. Je pense que Mendès France considérait que De Gaulle faisait partie de la solution. Il n'était pas hostile à la personne du général, surtout dans le contexte de la crise algérienne. Ce qu'il a refusé, c'est les modalités du retour de De Gaulle.
Oui, voilà. C'est ça.
C'est-à-dire que De Gaulle ne déjuge pas formellement les putschistes d'Alger, ne déjuge pas formellement l'armée française qui fait pression sur les parlementaires. Et ça, pour Mendès France, c'est insupportable. Mmh. Et c'était assez amusant parce qu'il dit à sa secrétaire, il dit « Parfois, on se découvre beaucoup plus républicain qu'on ne le pensait soi-même. » Et c'est peut-être un des autres points communs qu'on peut citer avec Lamartine.
Alors, une question que j'ai envie de vous poser à tous les deux. On arrive bientôt au terme de cette conversation sur ces deux destins républicains, celui d'Alphonse de Lamartine et de Pierre Mendès France. Jusqu'à quel point dans la vie politique française, dans l'histoire de la vie politique française, la modération peut-elle se faire entendre, Frédéric Potier?
Alors moi, je crois qu'on peut tout à fait défendre des idées modérées, mais de façon, j'allais dire, presque violente.
Façon
forte. Violente, le terme est trop fort.
Oui.
De façon forte. Je pense pas que la modération soit forcément un inconvénient. Et je crois qu'on peut être un réformiste audacieux, on peut être un démocrate scrupuleux, on peut être un républicain farouche en refusant justement la démagogie et le populisme. Donc moi, je crois que c'est possible. Simplement, il faut beaucoup de courage et il faut beaucoup de personnalité.
Sylvie Hivert, la modération peut-elle se faire entendre dans la vie politique?
Moi, je suis plus pessimiste. Et
vous qui avez chroniqué une époque très troublée, quand même.
Oui, mais en France, c'est très difficile parce que depuis la Révolution française, notre pays est coupé en deux.
Et ça, pour vous, c'est une réalité.
Historienne
que vous êtes.
On voit ça tous les noms, mais je ne suis pas si historienne que ça. Oui. On voit ça tous les jours. Je travaille en historienne, mais en fait, je ne suis pas... Je ne suis pas historienne
donc
de
vous
formation.
Exprimez librement.
Oh bah, voilà. Oui,
donc vous constatez cette fracture, cette tension.
Oui, et je trouve qu'elle existe toujours. Et quand quelqu'un essaye d'être ni l'un ni l'autre, ou et l'un et l'autre, comme Lamartine, qui est beaucoup plus rare, ça ne dure jamais très longtemps.
Mmh. C'est toujours bref.
Oui, parce que les deux camps se réveillent. Voilà, ça ne satisfait ni l'un ni l'autre. À la fin, on finit dans le trou, dans le fossé. C'est ce qui s'est passé pour Lamartine.
Vous faites
c'est
le même constat, Frédéric Potier, ou vous craignez le même constat, peut-être. Est-ce que vous partagez
ce pessimisme? Hein, mais...
Non, moi, je suis un éternel optimiste. Bon. Je pense pas que la division soit une fatalité française. Je pense qu'il y a des moments de rassemblement, il y a des moments d'avancée.
Ça dure pas.
Mais que dans des périodes troublées de crise, il y a des mauvais démons qui s'agitent et qui cherchent à pousser les uns et les autres vers un climat de guerre civile qui est effectivement quelque chose qui répond bien à notre culture historique française, oui.
Ouais, vous les sentez, ces mauvais démons, aujourd'hui, Frédéric Potier, vous qui avez participé en tant qu'énarque à la vie politique de l'intérieur, quand même.
Ah ben, les démons sont plus que jamais de sortie, je crois.
Oui. Mmh. Et donc, vous invoquez les mannes de Pierre Mendès-France.
Ah, je ne sais pas si c'est un talisman qui va nous protéger du populisme. Oui. En tout cas, je crois que les partis de gauche, en tout cas pour ce qui est moi de ma famille politique, hein, auraient intérêt à retrouver une gauche de l'espérance, une gauche de l'espoir, et pas simplement être dans la véhémence ou dans la recherche de boucs émissaires à tout prix.
Mmh. Si telle est votre famille politique, elle est quand même bien mal en point aujourd'hui, Frédéric Potier.
Ah, ça, je vous l'accorde.
Oui. Et donc, c'est pour cette raison que vous l'appelez à se tourner vers Mendès-France.
Oui, parce que...
Vous appelez Mélenchon à se tourner vers Mendès-France.
Jean-Luc Mélenchon fait strictement ce qu'il a envie de faire.
Oui.
Mais,
on l'a bien compris.
Non, c'est quand on essaye de trouver des modèles et des références, on a évidemment Jaurès qui écrase de tout son poids la vie politique française à gauche, mais c'est une référence un peu datée. Blum, c'est un peu pareil. C'est un homme, finalement, qui est très marqué par le marxisme. Et quand on regarde sa pensée économique, ça reste quand même un peu frustre. Là où Mendès est d'une incroyable modernité, tant sur les institutions que sur l'économie, que sur la politique étrangère. Et donc, je pense qu'il y a vraiment urgence, je redis, hein, urgence à redécouvrir Mendès-France, qui est une figure éthique, une figure exigeante, qui vraiment, je pense, devrait inspirer au plus haut point tous nos dirigeants.
Sylvie Hivert, donnez-nous en trois mots de bonnes raisons aujourd'hui, dans les difficultés et la crise politique que nous vivons, de nous tourner vers Alphonse de Lamartine.
Alors là, je pense que c'est un livre qui est... C'est un roman, j'insiste, c'est un roman vrai.
Votre
livre,
vrai. Oui.
Mais c'est un roman qui a pour ambition vraiment, et c'est pour ça que je l'ai appelé Au moins le souvenir, qui est tiré d'ailleurs du Lac, simplement qu'on au moins se souvenir de ce qu'a fait Lamartine, de ce qu'il a écrit dans tous les domaines. Parce qu'en plus, il a énormément écrit, il a énormément parlé. Les discours à l'Assemblée sont fabuleux et je suis en train d'oublier la question.
On l'a comparé avec Mirabeau. Bah, c'est des raisons d'être optimiste et donc de se tourner vers Lamartine.
Bah, simplement, apprendre l'histoire de France, pas en s'amusant, mais en lisant un roman, à mon avis, ça permet vraiment de réfléchir aujourd'hui, de faire des comparaisons parfois très amusantes. En tout cas, moi, je me suis bien amusée.
En tout cas, vous y avez bien réussi.
Même si c'est parfois toujours pas très gai, mais bon.
Merci beaucoup, Sylvie Hivert. Merci à nos deux invités. Merci de nous avoir permis de retracer ces deux destins républicains aussi brefs qu'exemplaires, celui d'Alphonse de Lamartine et de Pierre Mendès-France. Je rappelle le titre du livre de Sylvie Hivert, Au moins le souvenir. Il était une fois Lamartine aux éditions Héloïse d'Ormesson et ça se lit comme un roman. Et le livre de Frédéric Potier, Pierre Mendès-France, La foi démocratique aux éditions Bouquin Essai. Et c'est très rafraîchissant dans les difficultés de la vie politique d'aujourd'hui. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission ainsi que les références des livres de nos invités sur le site de RCF. Et vous pouvez écouter à nouveau cette émission et toutes celles qui l'ont précédée en podcast, en balado-diffusion à partir du site de RCF ou de l'application. Merci à notre réalisateur Pierre-Henri Paget et un grand merci à vous tous pour votre fidélité chaque semaine à cette émission Les Racines du Présent. À la semaine prochaine.